super vendard, j'entends de voir que cette histoire-là. Sans comprendre, c'est normal. Mais après que la révélation a éclaté, qui sait que c'est pas la voix de son père? Vous connaissez tous ces midrashims. Qui sait que c'est pas la voix de son père qui parle? C'est pas son surmoi. C'est vraiment le créateur du monde. Et cela est scellé par l'histoire et les alliances successives et la réalité de l'histoire du monde. Quand les descendants d'Abraham rejouent à Abraham, alors là il y a Kshira. Là il y a pour sa vie et là il y a faute. Vous comprenez comment? Je me rebranche un peu sur votre question. Vraiment, quand on vit à l'échelle individuelle ce thème de l'identité collective tel qu'il est dans Abraham, bon, il y a d'abord cette présomption d'orgueil qu'on joue à Abraham, mais lorsqu'on rejoue à l'échelle individuelle ce thème d'identité collective, alors si on retombe dans le piège, alors là, il y a ce problème. Là, on pourra parler des dialectiques de faute et de châtiment. Mais au niveau d'Abraham, nous dit Al-Mahara, il n'y a pas du tout faute et châtiment. Il y a un processus d'émergence d'identité et c'est comme ça qu'il est. Et donc, c'est pas. C'est normal, c'est pas par hasard que sa descendance va retrouver les mêmes épreuves. Mais attention, ne tombe pas dans le piège. Donc, premièrement, encore une fois, je récapitule les trois thèses. Rabbi Abahu, c'est que il a manqué de foi en mobilisant les Bahouré Yeshiva. Problème contemporain, d'ailleurs, qui se pose à nous en Israël, comme vous le savez. Okay? Et en quoi il y a un problème? Deuxièmement, il a manqué de foi en ce qu'il a douté d'être capable de mériter, alors que Dieu avait déjà porté le diagnostic sur lui. Et alors, c'est comme s'il disait à Dieu, mais tu m'as fait passer un test, mais tu es un mauvais passeur de test. C'est que, ah bon, il y a quelque chose comme ça. Et puis c'était un problème d'amour. Okay. Et puis, troisième, très âge de la foi, il a été, dans notre texte général, il est paresseux à faire des conversions. Il avait la queue au Bédine, et puis, alors, ouais, le problème, on n'a pas fait de Dayanim. Mais ça, on étudiera ça très, très en détail. Bien. Oui, pardon. Bien. Oui, pas
forcément. On a toujours pensé à Elina comme Elina ne sera pas Mina.
Aussi, ça va aller dans le même sens.
Aussi, ça. Il
s'agit d'Emouna à tous les niveaux, si je veux dire. Premièrement, la Elina générale, globale, que cette chose invraisemblable à l'identité humaine dans l'ordre de l'humain. Que Dieu qui a créé les univers s'adresse à moi, faible créature vermisseau vers le terre, pour me dire je t'aime et ta destinée, etc., que ça c'est vrai. C'était Mouna là. Okay? Et puis finalement, nous avons retrouvé la Mouna à tous les niveaux, et en particulier la Mouna à Chacham. C'est assez extraordinaire. Ça, je vous annonce, pour vous inciter à venir mardi ou jeudi, c'est exactement, quand il va nous dire dans la troisième dimension, c'est ça. Les guérim sont au niveau de ta Mouna à Chacham. Okay? Vous savez que dans le Shmon Esrei, on dit. À la tzadikim, la chassidim, réal, sauf réal, chérit, l'état, sauf réhem, les derniers de hachamim, réal, géré à cédé, qui est mon hachamécha. C'est-à-dire, on met les guérines avec les tamidés de chamim. Et je me dis donc, puisque il a eu cette faiblesse vis-à-vis des guérines, ça veut dire qu'il faut faire le tikkun des moulins de hachamim. Je mets un secret public. Le hanger authentique, bien sûr, on l'appelle Rav. Pourquoi? Parce que si vraiment il a été guéri, c'est qu'il est un Chacham. Hein? Parce que sinon, il est fou. Vous voyez, c'est ce qu'il fait. Alors c'est vraiment un Chacham, alors on l'appelle Rav. Ou bien c'est pas ce qu'il fait, on parle d'autre chose. Mais, bon, vous comprenez, c'est au même niveau que le Tamil Chacham. C'est pourquoi on accepte de guérir que si on est sûr qu'ils sont Tamil Chacham. Vous voyez à peu près la difficulté énorme. Non, c'est moi qui ajoute, mais. Voilà. Alors je vous demande 5 minutes pour terminer un paragraphe. Qu'on puisse enchaîner demain. Alors, je vous le lis en sirop. Haré, Shalom, Berot. Voilà donc trois opinions. Et il y en a dans ce sujet. Les Koulam, Salou, Adabar, Behet. Chacune de ces trois opinions a fait dépendre le problème de l'exil d'une faute. Quelle faute? Le Dabka, Behet, Abraham. C'est seulement de la faute d'Abraham. Nous tenons, parce que Varamarno, déjà nous avons dit, qui, Mina, Shoré, Réaïkar, Nim, Shachakot. Que tout dépend et procède de la racine et du principe de l'origine. Tout ce qu'il y a en jeu dans l'identité d'Israël, développé dans l'histoire, est déjà annoncé dans le principe qui est Abraham. Et il nous arrêterons d'Achorech. Si on trouve un manque, une faiblesse, une vulnérabilité dans la racine, il m'achève, arrêterons d'Amke et la mine chachine humaine. Ça procède, ça se m'achève. Ça se répand, je ne sais pas comment ça se dévoile aussi dans ce qui procède de cette racine. Et puis, grave à Tanzal, c'est pourquoi l'opinion de nos maîtres, Gamken, aussi, qui va marrer, dans cette vision où Abraham a vu les différents sacrifices, bride de la Bétarine, il revient tout de suite. À cause de Baruch Hu, Héra et Abraham, Dieu a montré à Abraham à cause tout le développement de l'histoire de sa descendance. Toujours à Yahshua Shakol. Parce qu'Abraham était le principe de tout. Donc, à Abraham, est dévoilé dans les événements qui le concernent personnellement, en réalité, la typologie de tout ce qui arrivera, en structure de tout ce qui arrivera à sa descendance. C'est rapidement. Tout ça, en fait. Oui. J'ai fait allusion tout à l'heure en disant que Isaac et Jacob sont deux autres mutations d'identité nécessaires pour arriver à Israël, mais ils ne sont que des mutations d'identité d'Abraham. Et que l'ordre des vertus est absolu. Il faut commencer par la mitzvah d'Abraham. Et c'est dans la mitzvah d'Abraham qu'il y a plus de danger déjà. C'est clair? Bon. Très rapidement, il faut trois vertus pour arriver à l'identité d'Israël. Chesed, la charité gratuite. Din, la rigueur absolue. Et mettre la vérité qui nous englobe depuis le départ. Mais si on prend un nom, un ordre inverse, c'est la catastrophe. On commence par la vertu d'Abraham. Historiquement, c'est comme ça que ça a commencé. À l'échelle d'ailleurs des âges de l'individu, des âges de l'humanité, et surtout dans l'ordre logique des vertus. Parce que quelqu'un qui est de l'ordre chesed peut arriver un jour à la Midat HaDin. Quelqu'un qui commence par la Midat HaDin n'arrive jamais à la Midat HaChesed. Bon, à moins que son maître le prenne par les cheveux et lui fait cette fois la Gemila. Mais vous voyez ce que je dis? Parce que l'ordre inverse est un peu. Quelqu'un qui est de la Midat HaDin n'arrivera jamais à la Midat HaChesed. Authentique, il va mettre dans son chesed des choses abominables de la Midat HaDin quand elle est seule. Est-ce que c'est suffisamment clair? Donc, on a donné le remède suivant dans la Kabbalah. Nous avons tous appris au Heder. Malgré Heder, Chesed Din Rahami. C'est dans cet ordre-là. Okay? Tandis que si on change l'ordre, alors il y a une grande terreur, Harada. Okay? C'est ce qu'on appelle les Haradim. Bon, j'ai pas fait exprès. Bon, vous voyez, rappelez-vous, Heder. Dans ce Rachim, Heder, c'est la chambre nuptiale. Et dans tout le reste de la Bible, c'est le Beth Amidrash. Et c'est pourquoi dans cette vision, il y a aussi l'allusion à tous les exils. L'Ogalut Mitzrayim Bilba, pas seulement l'exil d'Égypte seulement. Et là, Ashkribut Kemachriot, mais aussi les autres quatre exils que nous avons appris avec Michel au dernier séminaire. Vous vous rappelez du séminaire sur Hanouka, c'était là, hein, où il y a les quatre grands Malchuyot, c'est-à-dire Babel, Paras, Yavan, Edom. Et là, on avait appris que Mitraïm est une annexe de Babel, du premier Babel. Et il va nous donner tout de suite l'indication dans le texte même que Moshe Darchuzal, comme nos maîtres ont enseigné dans Bereshit Rabbah, paragraphe 44, les dames et Agoya Seyar Avodou Dananochi, dames, c'est même, et même cette nation, vous rappelez, je vous avais dit tout à l'heure, dames et Agoy, les rabots, Shirbud, Seyar Makhoud. Quand ce dames, même, c'est pour inclure aussi l'oppression que l'on traversera dans les heures d'exil. Zadin Imaïm, et ils ont raison, dit le Maharal, que Moshe Ra Kazvokhul Abraham Shabbat Mitraïm, parce que de même que Dieu a montré à Abraham les villes d'Égypte, Kachera Lo Shabbat Kalamachouyot. Il a montré aussi ce que seraient les autres exils chez les autres empires. Car Kol Hunim Shachin Ashorej, car tout vient de la racine, que lui, Abraham, est la racine de tout. De tout, au niveau identité d'Israël qui se déploiera de lui, à travers les mutations d'identité que vous avez rappelées. Mais tout commence dans Abraham. Le Chach d'Artanzal, c'est pourquoi leur opinion, leur enseignement, Gamten, Shayach et Kintabe Abraham, que si on cherche la faute, la source était en Abraham. Mais rappelez-vous qu'on ne peut plus dire qu'en Abraham c'était une faute. Ça veut dire que cette conduite d'Abraham chez ses descendants c'est une faute, mais chez lui c'est sainteté pure. Est-ce que c'est suffisamment clair cette différence de niveau? C'est important. Et puis c'est clair qu'il dit ça en aide des Arabes. Et c'est pourquoi on se trouve la punition, entre guillemets, dans sa descendance. Allez. Ou marche, c'est ça. Et ce qu'on pourrait observer, hier, c'est ça, c'est Abraham et Enach. Comment est-il possible qu'Abraham, lui, soit puni? Il arrive à Abraham et Enach. Or, pourtant, dans Abraham, il est dit, à propos d'Abraham, il est dit, de ses vapeurs, c'est caver. Tu seras enterré dans une bonne lumière. Okay? Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faute, punition pour Abraham. Mais ça témoigne qu'Abraham est mort heureux. Il n'a jamais été puni de quoi que ce soit. Mais là, tu es décollé. Et ça veut dire que tu seras enterré en bonne vieillesse, en vieillesse heureuse, et tu ne verras pas toutes ces choses-là. Ça va à ta descendance. Je reviens à la liste précédente. Tu avais cette punition, péché originel. Le Maharal nous demande d'évacuer. C'est autre chose. Ça veut dire à toi, ça t'arrivera pas, il va expliquer pourquoi. Mais étant donné que tu portes ça en toi, comme pendant l'identité, ça arrivera à ton peuple. Mais pourquoi? C'est achoté, yamut veseratova. Comment dirions-nous que celui qui a fauté serait mort en bonne vieillesse, bichari achet le banav, et que cette faute est répercutée sur ses enfants, chez le chatou qui eux n'ont pas fauté? Kushazut uksha mefarech aniskar. Cette objection a été déposée par le commentateur que nous avons cité, Adivre Chachamim, de l'Oyadar qui mène à chaud d'avoir faux. Lorsqu'il a objecté aux paroles des sages, mais il ne sait pas que c'est lui qui parle. Bon, je ferme la parenthèse. Oui, projection d'une équation personnelle philosophique. Tous les pirouchés chez eux, il doit objecter ça à son propre commentaire. Lui qui croit qu'il y a faute et d'autres sont punis. On n'a jamais dit ça dans les sources. On a dit qu'il y a tendance d'identité. Et quand ça se dévoile, alors, avec les Sérahs, alors il y a faute et c'est puni. D'une autre manière, et nous allons faire dans les jours suivants, dispersion, il fallait qu'il y ait, que ce soit exil, alors là, il y a une cause. Parce que c'est pas évident que la dispersion doit être l'oppression de l'exil. Vous comprenez ce que je dis? Il pourrait y avoir dispersion, comme Amlechet Kohanim Goy Kadosh, comme peuple des prêtres des nations. C'est pas ça qu'il y a eu dans l'histoire. Il y a eu dispersion, mais sous forme d'exil. Alors c'est que une cause seconde à jouer. Et quand la cause seconde joue, alors ce qui est annoncé à Abraham devient sa définition. Est-ce que c'est clair? Bon. Oh, tout ça, c'est plein de questions, c'est plein de difficultés. Pour le moment, je vous brosse un tableau général. On pourra toujours se demander, on se demandera, est-ce que ça pourrait être autrement, hein? Ou serait l'éventualité autre? J'essaierai de vous répondre. Mais là, la question restera quand même après ma réponse. Parce que nous vivons ces choses-là, alors quand on vit une situation, il n'y a pas question de réponse. Il faut vivre et s'en sortir. Hein? Vous savez qu'on dit souvent, en français, qui vivra, verra. Nous disons en hébreu, nous verrons merci. Qui verra, vivra. C'est un peu différent. Un peu. Qui le fait vous choisir chez vous, qui n'attend pas à nous tenir chez vous, à tout donner à cause, de nous faire attaquer. Et il s'agit de celui qui a dit que tout ça, tout cet exil est venu à cause de la vente de l'air par ses frères. Il y a eu l'hommage que peu de chat nagra, nous sera fargela. Que c'est comme la cuillère a été creusée par l'artisan que le grain de moutarde brûlera. C'est une expression araméenne du Talmud. C'est-à-dire, à l'époque, on préparait des cuillères en bois pour manger le couscous tunisien. Et alors, l'artisan, le nagar, quand il est venu, s'il avait laissé des vénules dans la cuillère de bois, alors le grain de moutarde reste dans les fentes, et après, quand on boit la soupe avec la moutarde, ça veut dire la harita, vous connaissez ça. Alors ça brûle. Alors voilà comment on dit. C'est comme on a fait ici que ça brûle, que la moutarde brûle. Alors, si cette explication ne peut pas la retenir, nous dit le Maharal, parce que les tribus ne vivaient pas. En réalité, je vais vous donner en quatre phrases, pour ceux qui ne verront pas la suite, pourquoi il y a une raison historique importante de la Torah, pourquoi Abraham, lui, dans son temps, ne devait pas connaître l'Église. Il a fait un voyage en Égypte, mais dans la gloire, dit Messie Elohim Atalikirven, prince de Dieu reçu en Égypte. Hein? Le Maharal va nous donner une réponse qui va nous sembler paradoxale. Mais par la suite, nous verrons à quel point il faut élargir le problème. Il nous dit voilà, si déjà Abraham doit descendre en exil, alors ça veut dire que toutes les promesses attachées à la descendance d'Abraham qui doit connaître l'exil s'accompliront aussi pour toute sa descendance, Ishmaël et Esav y compris. Vous suivez? Il faut attendre qu'Ishmaël se sépare, qu'Esav se sépare, pour que commence l'histoire de la descendance d'Abraham. Si elle avait commencé en Abraham même, ça aurait concerné Ishmaël et Esav. Est-ce que vous le comprenez? En particulier, parmi l'ensemble des promesses, il y a la promesse de la terre. À qui appartient l'héritage d'Abraham, la terre d'Abraham? Il n'appartient qu'à ceux de la descendance d'Abraham qui ont connu l'exil. C'est lié. Et nous étudierons comment et pourquoi. Et alors si Ishmaël avait connu l'exil, si Esav avait connu l'exil, ils auraient prétention sur la terre qu'ils appellent la Palestine. Okay? Et d'ailleurs, ils ont quand même prétention. Mais nous savons que cette prétention n'a pas de base biblique. Okay? Ils ont prétention puisqu'ils sont, d'autre part, prétendants à être fils d'Abraham. Je dis bien prétendant, c'est une prétention. Mais c'est une autre histoire. Le 350, bon, c'est pas notre problème. Mais je veux dire, voilà la réponse du Maharal. C'est d'autant plus frappant que nous avons eu hier soir aux nouvelles, le représentant de l'État, votre président, quel, et le représentant d'Ishmaël, à Amman, qui se sont mis d'accord pour réclamer l'héritage d'Abraham. Voilà ce que j'ai expliqué. Un chrétien, un musulman. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce que nous dit le Maharal ici? Il nous dit voilà, ceux qui auront l'exil auront aussi la délivrance de la terre. Et donc, si Abraham avait commencé l'histoire de l'exil, ça aurait concerné Ishmael. Si Isaac avait commencé l'histoire de l'exil, ça aurait concerné Esaü. Ça ne peut pas marcher. Il faut donc attendre Jacob pour que ça commence. C'est vrai. Parce que, voilà ce que je voudrais citer moi-même, là-dessus, Ishmael n'a jamais connu l'exil. Il a voyagé partout, mais partout en conquérant. C'est clair. Hein? Ce que c'est qu'être en exil, ça, jamais Ishmael l'a connu. Esaü n'a jamais connu l'exil. Il a voyagé partout, mais partout en conquérant. Ce que c'est que l'église n'a jamais connu. Hein? Même lorsque des églises ont été, au sein de civilisations étrangères, même persécutées. Qu'est-ce que c'est l'église, ça, ils n'ont jamais connu.
Bon, on ne doit jamais se compter ici à partir d'Abraham.
C'est vrai.
On ne doit jamais dire.
C'est pourquoi 210 ans, c'est le chiffre de l'histoire. Hein? 210 ans. 210 ans, c'est résolu. Hein? Vous avez compris le problème. Mais nous reviendrons sur cette référence. Mais je pense que les choses ont bougé de notre temps. Je crois que, pour la première fois de son histoire, Ishmael connaît l'exil. Et il s'agit des Arabes vivant en Eretz Israël. Ils sont en exil. Ils sont en exil chez Israël. C'est un exil qu'on souhaiterait... Nous, on aurait souhaité être en exil comme ça. Mais je crois personnellement qu'il faut souhaiter aucun exil à personne. Et ça, c'est un autre problème, mais nous tirons les conséquences après. Il y a plus que ça. Donc, c'est peut-être le moment où, enfin, on va pouvoir parler. Parce que tant que Ishmael ne comprenait pas que c'est l'exil, il ne pouvait pas parler. Vous avez remarqué cela, okay? Il ne nous a jamais parlé. Et quand est-ce qu'on commencera à parler de Pessah, de la sortie d'Élie, à celui qui ne s'est pas interrogé, quand les signes seront là? Et qu'est-ce que le matin au Maror? C'est le signe de l'exil. La Massa, le pain de misère, le Maror, la Massim, vous voyez ce que je veux dire? Quand il comprendra que c'est le matin au Maror, alors on pourra éviter que c'est Israël et la sortie d'Élie et tout le reste. Je pense personnellement, ça j'ai des raisons de penser, non, ce sera d'autres études, qu'effectivement, le temps est peut-être venu où Isaac et Ishmael pourront commencer à parler. Je ne sais pas si on en sait vraiment déjà parler. On a parlé avec les Égyptiens. Est-ce que les Égyptiens, c'est vraiment Ishmael? Tout porte à croire que, d'après les textes, d'ailleurs, que c'est l'Arabie théodite qui est la voix d'Ishmaël, si je dis, et que voilà que de nouveau la France, qui est née de l'Église, et donc de l'Église, se fait le porte-parole. Vous remarquez, c'est sur quel point c'est programmé. Hein? Qui le premier a ouvert la porte à l'antisémitisme, à l'anti-israélisme? De Gaulle. Qui le deuxième? Pompidou. Qui le troisième? Giscard d'Estaing. Je crois qu'il y a un dessin très clair là. La France. Bon, on reviendra sur ce problème-là. Et il y a une sorte de collision entre Esaü et Ishmael sur le conseil des grands, c'est-à-dire le rouge là-bas qui est à Moscou et l'autre rouge qui est à New York. Le Edom, tout ça c'est Edom. Bon. Et la prétention, donc, de réclamer cette terre qui est l'héritage d'Abraham, et le fait qu'effectivement, il n'y a aucune base puisqu'ils n'ont pas connu l'exil. Quand ça commence à devenir sérieux, quand on parle des Arabes de l'exil, les seuls, c'est les Palestiniens, et qui commencent déjà à parler en termes juifs. Diaspora, ils ont une diaspora. Galus, persécution, etc. etc. Vous voyez le problème. Or, nous verrons assez rapidement, c'est dans un autre chapitre de l'Église. Un autre point du marais sur ce problème. Que Israël est la dernière nation à apparaître dans l'histoire. Qu'Israël doit apparaître comme dernière des nations. C'est d'abord les 70 nations, la dernière, après, c'est Israël. Et c'est elle qui hérite des promesses à Abraham. Or, ce qui est extraordinairement frappant, c'est que cette prétention à être la dernière après Israël, c'est la prétention de la nation palestinienne. D'être, après Israël, la dernière des nations de la fin des temps, hein, des 6000 ans, enfin vous voyez ce qui se passe, et d'après la prétention sur la terre promise à la dernière des nations. Ça veut dire que c'est une revendication d'être Israël qui apparaît là avec ce qu'on appelle la nation palestinienne. Bien, ce qu'on appelle, bon, on parlera de tout ça en clair, parce qu'il faut recoder nos vocabulaire. Alors c'est extrêmement frappant. Oui, tout ça est très rassurant, d'ailleurs, puisque c'est prévu par les textes. On sait où ça mène. Mais à quel prix, c'est notre problème. Mais, vous voyez comment se mettent en place toutes ces peines d'identité annoncées par les sources du Midrash, depuis la plus haute antiquité pharisienne, okay, et telles qu'à travers les siècles, les grands commentateurs, les grands maîtres comme le Maharal, non seulement ont retransmis et préservé, mais nous ont expliqué pour nous quelle en était la signification. Michel avait signalé d'ailleurs intervenant arabe dans le Nehemiah, que Ishmael, je vous apporte le livre la prochaine fois, ça vaut la peine de le réentendre, que Ishmael veut Paras. Ishmael, c'est la Perse. Et vous voyez comment ça s'organise autour des événements qui se déclenchent en Perse. Mais je vais demander quand même que je puisse avoir un Yalkut Shimoni sur Ishayahu. Je vous dirai demain, un texte du Yalkut Shimoni sur Ishayahu, et qui annonce que les grandes tribulations commenceront par la Perse et comment se relier avec ce qui se passe en Israël. dans le coutumoni. Mais pour revenir simplement brièvement à cela, bien entendu, ce qui est important, ce n'est pas les convergences formelles. C'est les affrontements de thèmes d'identité qui nous sont enseignés par les commentateurs. Voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui. Donc, je vous rappelle trois petites consignes, vous me permettez un peu de silence. Premièrement, ceux qui ne suivront pas les discours, laissez les textes pour les autres. Deuxièmement, s'il vous plaît. Deuxièmement, venez vraiment à l'heure demain à 10h30. Avant, vous avez le droit. Et puis, troisièmement, j'ai amené pour le cours du matin une madeleine de Pessard et un livre de Schmoltz. Quatrièmement, je vous donne l'horaire de demain. 10h30, nous continuons le cours sur la Haggadah. 6h30, le séminaire avec Michel Prince. Et 8h30, la conférence, la première conférence sur le pharisaïsme. Stop.
Et vous nous rebâchez du Maharaj. Et en nous appuyant sur trois questions, premièrement les causes de la sortie l'exil d'Égypte, deuxièmement le rôle de Moïse dans la sortie d'Égypte, et troisièmement l'objectif de la sortie d'Égypte. Je ne sais pas si nous aurons encore les rêves. C'est-à-dire que si certaines questions nous demandent de vérifier dans les textes, on peut avoir un texte commun. Bien, alors je vous rappellerai, vous me rappellerez aussi à la fin du cours, que nous aurons donc le matin l'étude de l'Haggadah de Pessah selon le Maharal. Et bien entendu, vous comprenez qu'il va s'agir d'un tout petit morceau de l'Haggadah et d'un grand morceau, j'espère, du Maharal. Toutes les soirées, à partir de 6h30 jusqu'à 8h, le docteur Prince fera une étude de texte sur le sujet du pharisaïsme, sur un texte de Gomara qui commencera ce soir. Nous reprendrons les références tout à l'heure. Et ensuite, vous avez affiché l'intitulé des conférences sur le pharisaïsme qui seront récapitulées dimanche dans une table ronde habituelle. Bien. Alors, vraiment, quelques phrases seulement pour ceux qui n'étaient pas là hier. Je vous résume l'introduction que nous avons eue. Le Maharal a posé comme problème des causes profondes de l'exil en Égypte, un enseignement qui est donné par la Gemara de Nedarim 32a sur le verset du chapitre 15 de la Genèse. C'était le verset 3 ou 4, si je me souviens bien, j'en ai toujours quand même mon bréchit. C'est les versets 13 et 14. 13 et 14. Et tout le chapitre est important, nous aurons à nous y référer, mais c'est essentiellement le verset 13 puis 14, où est donné à Abraham l'annonce de la, que sa descendance connaîtra cette histoire de l'exil d'Égypte. On reviendra par la suite sur les détails. Alors, le Maharal envisage deux systèmes d'explication. Un premier qu'il réfute et qui consisterait à chercher dans un acte de la vie d'Abraham, ou un acte du temps des patriarches, un épisode, un événement, la cause de l'exil d'Égypte considéré comme châtiment de cet acte. Deux hypothèses ont été citées par le Maharal et il les réfute, en s'appuyant d'ailleurs sur des commentateurs antérieurs, mais je reviendrai sur ce point de méthode. Première hypothèse, le fait que la cause de l'exil d'Égypte pourrait être trouvée dans l'épisode de la vente de Joseph par ses frères. C'est-à-dire qu'il y a là le thème de la rivalité des frères, du non-amour des frères entre eux, comme cause profonde de l'exil. Le Maharal réfute cette thèse de la manière suivante. Il y aurait là, selon l'explication que nous avons eue, une reprise d'un mythe analogue au mythe du péché originel, c'est-à-dire un acte ponctuel, une péripétie, qui serait cause de souffrance pour des hommes de cette descendance, mais qui n'auraient pas, eux, fait commis cette faute, cet acte. Le deuxième exemple que le Maharal cite, c'est le fait que Abraham aurait commis une faute en exposant sa femme, en disant d'elle qu'elle était sa sœur, lorsqu'il est descendu en Égypte. Nous avons hier, assez longuement, la réfutation de ces deux exemples parmi d'autres possibles que nous trouvons dans votre source, mais c'est surtout sur la méthode que je crois qu'il faut réfléchir. Le système d'explication du Maharal consiste à déceler, à travers les indications que nous donne le Talmud ou le Midrash, à déceler des tendances d'identité Donc ce peuple qui descend d'Abraham, de les déceler à la racine dans l'identité individuelle d'Abraham lui-même, et de montrer qu'il n'y a pas là, si vous voulez, la conséquence d'une faute originelle, mais le fait que lorsque ces tendances se dévoilent dans les époques historiques vécues par la descendance des patriarches, alors cela joue comme cause seconde d'une péripétie de l'histoire d'Israël qui, dans tous les cas, est a priori de toute cause seconde et qui est cette dialectique des temps d'exil et des temps de retour. J'entends bien, c'est chaque fois le même problème, que je suis moi-même très gêné de récapituler tout le monde hier en quelques phrases, mais simplement pour situer l'introduction de ce problème. J'espère que cela sera de nouveau clair pour ceux qui n'étaient pas là hier dans les analyses qui vont suivre. Nous reprendrons le détail des années. La citation du Talmud que nous donne le Maharal donne trois enseignements. C'est un premier enseignement de Rabbi Abahu, ensuite de Shmuel et ensuite de Rabbi Yochanan. Le premier enseignement dit ceci. Quelle est la faute qu'aurait faite Abraham et qui serait la cause profonde de l'exil comme châtiment, mais encore une fois, non pas dans la structure d'un thème si péché originel, mais dans cette deuxième explication que le Maharal nous a donnée, la décèle des tendances d'identité qui, lorsqu'elles jouent et se dévoilent, réclament réparation, et la réparation est l'exil. Encore une fois, très général, mais ça va se préciser. Premier enseignement de Rabbi Abahu, c'est le fait qu'il y ait, et c'est encore moi qui ai anticipé sur le terme que j'ai employé déjà dans le paragraphe que nous allons aborder, le Maharal, une sorte de manque de foi, ou disons de faiblesse de la foi, par le fait que Abraham a été engagé dans une guerre, qui nous est racontée dans les récits précédents de la Genèse. Il a été engagé dans cette guerre pour sauver d'ailleurs Lot. Vous vous rappelez de cet épisode, tout le monde? C'est la guerre des quatre rois contre les cinq rois. Et Rabbi Abahu dit, nous tenez. Ma, mais là, ça va m'arriver, mais il est tard, dédu, banal, matin, il est sur famine, nous tenez. Et à ça, en guerre, il y avait un des chamins, et Emma va y réchanicha de l'idée. Parce que dans cette guerre, il a mobilisé ses disciples qui étaient des talmudés chachamim, des hommes qu'il a lui-même voués à l'étude de la sagesse, et il les a retirés de leur vocation d'étude de la sagesse, talmudés chachamim, pour en faire des soldats pour l'aider dans la guerre dans laquelle il est intervenu, avec un motif noble pour sauver Lot. En fait, cette guerre a un tout autre objectif, c'est un épisode par lequel nous voyons que Lot est sauvé grâce à cette guerre. Mais c'est un autre sujet. La guerre des cinq rois contre les quatre rois, il faut étudier ça avec la Kabbalah. Mais dès que les chiffres entrent, comme vous le savez, il y a un problème à décrypter. Mais dans tous les cas, voilà l'argument que Rabbi Abahu met en évidence. Abraham a manqué de foi en mobilisant des talmudés chachamim pour faire une guerre qu'il avait à faire. Faiblesse de la foi. Deuxième enseignement, c'est celui de Shmuel. Il a manqué de foi en posant la question à Dieu de Bamé et d'Arki Rachena. Dieu lui promet la terre de Canaan comme héritage de sa descendance. Et Abraham doute qu'il y ait suffisamment de mérite en lui et dans sa descendance pour mériter cette terre. Et donc, Shmuel formule cet argument de la manière suivante. « Nous tenaissez les frises à une otage chez la Kadosh-Bohru, chez Amar, Bamé et d'Arki. » Parce que Abraham a exagéré la rigueur des attributs de Dieu, et je cite tout de suite, il a supposé que Dieu est beaucoup plus exigeant qu'il ne serait en réalité, en demandant un mérite que Abraham doute qu'il le possède. Alors que Dieu promet à Abraham et à ses descendants cette terre privilégiée depuis l'origine, centre du monde, d'après la cohérence biblique, où se dévoileront les événements de l'Apocalypse, des temps messianiques, par où a commencé l'aventure de l'histoire humaine, ce mystère de la terre qui s'appelle la terre d'Israël, disputée par le monde entier, comme vous le savez, se référer aux nouvelles de la radio. Et voilà que c'est à Abraham que Dieu confirme l'alliance de la promesse de cette terre, et Abraham se demande, est-ce que vraiment je mérite? Et donc, il y a une sorte de, là encore, d'une toute autre manière, de faiblesse de la foi, et puis que Abraham introduit ce doute qui procède de l'argument du mérite, alors que Dieu promet. C'est un problème théologiquement très vaste de la dialectique entre la promesse et le mérite, pour mériter d'être celui à qui la promesse est faite et s'accomplit, chaque mot étant un chapitre du problème. Mais dans tous les cas, nous rencontrons déjà ces situations de manière abrupte, et avec le Maharal, nous allons tenter de les comprendre. Premier enseignement, Rabbi Abahu, le manque de foi aurait été dans le fait qu'Abraham va mobiliser les familles de Chachamim pour faire la guerre. Et j'entends bien que c'est aussi un problème contemporain que nous avons en Israël. Et donc déjà aujourd'hui, je ne voudrais pas vous laisser en point d'interrogation, on traitera un peu de l'explication de ce problème. Mais nous irons dans l'ordre du moral quand même. Deuxième enseignement, Shmuel. Alors que Dieu lui promet l'héritage de cette terre, ce n'est pas notre sujet de savoir en quoi cette terre est mystérieuse, à part en quoi elle est l'objet de cette promesse, mais prenons pour acquis qu'il y a là une promesse que Dieu a décidée. Et voilà que Abraham interroge en disant « Bamé et Da ». En quoi saurais-je vraiment ? Je veux une preuve de savoir si cette inouïe que tu me promets m'adviendra. Là s'introduit la clause de le doute d'Abraham dans la cohérence de l'enseignement talmudique. Nous pourrions voir d'autres catégories dans d'autres églises, mais finalement ça revient au même. Le doute, est-ce que je mérite cette grâce ? Vous voyez la dialectique des deux termes qui se posent. Est-ce que je mérite cette grâce que tu me fais ? Nous retrouverons toutes les dimensions de ce problème. Pour le dire un peu sous forme d'image, le Midrash utilise souvent ce dialogue d'amour où Dieu dit à Abraham, et j'essaie de le formuler en termes de perspective juive contemporaine, si vous voulez. Et Dieu dit à Abraham, je t'aime. Bon, alors Abraham, enfin le juif, qui répond, mais est-ce que c'est sûr que tu existes ? C'est quelque chose de cet ordre. Je vais demander à mes dictionnaires, si tu veux. Voilà, c'est ce que je dis. Alors, c'est le système d'éducation du Maharal, de déceler comment va se dévoiler dans l'histoire de ce peuple descendant d'Abraham, cette vulnérabilité, faiblesse de la Emouna, de la foi, que, de façon très énergique, les rabbins du Talmud vont nous dévoiler à la racine de cette identité. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse que nous avons beaucoup étudiée hier. Le Maharal s'oppose à l'idée qu'il y ait en quoi que ce soit faute en Abraham. Au niveau d'Abraham, il y a un processus de dévoilement d'une manière d'être homme, d'une forme de la vertu de la conscience qui est absolument hors de la faute et dans la sainteté absolue. Et cela vient de la vertu propre à Abraham. La vertu propre à Abraham est la vertu de charité, la vertu de chesed. Et notre question qui va nous accompagner dans tout le séminaire, vous rappelez ce que vous avez annoncé, c'est de se demander en quoi cette faiblesse vient d'une vertu positive. Ce n'est pas du tout une mauvaise volonté, ce n'est pas du tout l'aspect négatif du doute qui ne croit pas. Mais c'est peut-être, si vous voulez, au contraire, le contraire. C'est de l'exagération de la tendance à croire que procède ce doute-là. C'est-à-dire que nous sommes encore occupés à vivre le commencement d'une vertu qui est la vertu de charité, la vertu de chesed, et l'homme qui porte cette vertu de chesed et cette vertu de charité, et que cela comme vertu, est porté à risquer de douter alors que c'est lui qui sait croire. Je ne sais pas si je suis arrivé à mettre un peu en évidence le paradoxe de ce problème. C'est beaucoup plus tard, dans cette identité du patriarche, des avos, va devenir l'identité d'une société. À l'échelle individuelle, les individus, à l'échelle microscopique de l'individu dans le groupe, vont avoir à rejouer ce thème d'identité dans les limites de leur imperfection de descendant, chacun dans son équation personnelle d'individu, par rapport à l'équation personnelle exceptionnelle des avos qui sont à eux tout seuls le peuple entier, qui ont en chaque personne une identité collective. Alors c'est là que le caractère négatif de cette inconduite apparaît. C'est-à-dire, lorsque un petit juif descendant d'Abraham doute, ce doute est un doute négatif. Lorsque Abraham doute, ça lui vient de sa vertu. Je ne sais pas si vous arrivez déjà à éclaircir cela, mais c'est ce que le Maharal va nous répéter à chaque paragraphe. Ça, c'était le deuxième doute. Le troisième, c'est l'enseignement de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui dit, c'est l'esprit de l'Al-Mizotat de la Kadavorou, que Abraham a aussi exagéré la rigueur des attributs de Dieu, de ses exigences, mais il n'a pas fait suffisamment de convertis au Dieu d'Abraham. C'est le troisième point. Dans les trois cas, le Maharal va mettre en évidence qu'il s'agit là d'une sorte de faiblesse de la foi qui va se dévoiler chez ses descendants, et lorsqu'elle se dévoile chez ses descendants, cette faiblesse de la foi, alors elle mérite punition. Mais en Abraham, il n'est pas question de problème de faute et de châtiment, de crime et de châtiment, si vous voulez, parce que ça nous renverrait, au thème du péché originel. Ici, de façon très violente, le Maharal veut expliquer, nous avons eu ces arguments hier, c'est un thème qui implique une vision monstrueuse, blasphématoire de Dieu, injuste. Je pense que c'est clair. Bien sûr, vous savez très bien à quel point cette notion du péché originel, telle qu'elle est véhiculée par la langue française lorsqu'elle parle des choses bibliques, est en réalité d'imprégnation de la théologie chrétienne, beaucoup plus que de la théologie juive, mais qu'elle existe aussi dans la théologie juive. Mais elle n'a pas du tout la même portée. Il sera peut-être nécessaire d'ouvrir une parenthèse sur ce point, si ça vous intéresse. Bien entendu, si vous en lisez ou si vous en entendez dire que la thèse du péché originel existe aussi dans le judaïsme, vous savez, mais elle n'a pas du tout la portée qu'elle a dans la théologie chrétienne, où les descendants du premier homme payent les fautes du premier homme. Ça n'a rien à voir avec ce mythe-là. Vous comprenez ce que veut nous faire comprendre le marre. Peut-être au fond, avant d'aborder le texte, c'est ça qu'il faudrait parler pour éclaircir le problème. Je ne pensais pas du tout que ce serait encore nécessaire, mais je vois que c'est encore nécessaire. D'après votre manière de ne pas réagir. Il y a un récit biblique qui nous montre que, dès le commencement de son histoire, Adam Arishon, le premier homme, commet une faute de désobéissance. Nous ne comprenons pas, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, si vous voulez par allusion, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est ça, le fait de manger un arbre qui donnerait la connaissance du bien et du mal? C'est un mystère de l'étude biblique profonde. Enfin, admettons le thème comme connu. Simplement, une petite précision pour les hébraïsants, c'est bien attention, c'est très mal traduit lorsqu'on traduit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas ça qui est écrit en hébreu. Il y a Etzadarat Tovvara. Il n'y a pas écrit Etzadarat Atovvara. Et quel est le sens de ce qui est écrit en hébreu? C'est la connaissance du bien et mal mélangé. La connaissance d'un monde où le bien et mal est mélangé. Ou si vous voulez, la connaissance du monde par le biais de l'ambiguïté du mélange des valeurs. C'est ça qui empoisonne la conscience humaine à la recherche de la vérité. Et je crois qu'il suffit de signaler cette catégorie de tout est ambigu, tout est bien et mal à la fois. Goûter le monde comme ça, alors c'est ça la chute. Hein? Vous comprenez, c'est quand même très différent que de parler d'une espèce de fruit qui donnerait la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il fallait évidemment être déjà doué de conscience morale pour recevoir une consigne quelconque. Vous comprenez, dès que Adam entend « tu ne mangeras pas », ça veut dire « ne manger ça c'est mal, ne pas manger c'est bien ». Vous comprenez, il est déjà doué de conscience morale. Mais il s'agit de goûter le monde dans cette catégorie de l'ambiguïté des valeurs qui est très exactement la définition du poison intellectuel lorsque on essaye de connaître le monde à travers ce poison de la pensée philosophique qui mélange qui s'approprie les critères des valeurs. Il y a derrière la faute de l'humanité. Ce n'est pas la volonté du créateur qui est la mesure du bien et du mal, c'est ma volonté de moi, l'homme, qui décrète que tel est le critère du bien, tel est le critère du mal, s'approprier, se nourrir de cette connaissance en nous. Tout l'effort de la tradition pharisienne, c'est de distinguer le bien du mal dans cette ambiguïté du monde. Le monde est le lieu du mélange entre bien et mal, l'effort de la lucidité de la connaissance, l'objectif du Tamit Racham, c'est de réaliser le birour, le tri, et de mettre le bien d'un côté, le mal de l'autre, de cette façon de savoir quoi choisir. Est-ce que c'est suffisamment clair? Et c'est un autre problème. C'est un autre problème. Je pourrais le relier, si vous voulez, mais ça nous prendrait du temps. Mais c'est un autre problème. Je vais simplement une petite blague de pourri encore. Vous savez comment, pour les Hébraïens, vous savez comment s'appelle le Shulchan Aruch? Tour Shulchan Aruch, le tour. Comment c'est écrit tour? C'est la vraie. Tov Vara. C'est-à-dire, au bout de cette... Non, c'est pas une blague, mais enfin, au bout de cet effort de distinction entre le bien et le mal, on a le Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch finit par nous dire, ça c'est le bien, ça c'est le mal, dans toutes les catégories légales. Ça c'est le permis, ça c'est l'interdit, c'est le défendu, ça c'est le saint, le sanctifiable, ça c'est le profane, ça c'est le pur, ça c'est l'impur. Et maintenant, sa volonté libre peut choisir, peut s'engager, et dire ce qu'elle préfère, sa vie qui préfère le bien, ou Rachar qui préfère le mal. Mais vous voyez, le désarroi de la conscience, c'est de rencontrer l'univers des valeurs dans le chaos des valeurs, dans un monde où bien et mal sont mélangés. Alors la consigne de la Bible, c'est de dire au premier homme, à cette manière de connaître le monde, ne touche pas. Apprends d'abord le fruit de l'arbre de vie, apprends d'abord la connaissance de la Torah, et après tu pourras faire ce travail de distinction dans la connaissance entre les biens. C'est clair? C'est suffisamment clair, je veux dire. Mais, pardon? La connaissance. Oui. Et alors, donc il est ça, bon, ça reste mystérieux, quelle est cette distance qui fait qu'on acquiert cette manière de connaître? À mon sens, je crois qu'il s'agit des petits. De toute nourriture qui soit, véhicule comment on dit ça? De, par exemple, tous les gens qui s'adonnent à des drogues, eh bien, c'est ça qu'ils font. Ils essayent de goûter le monde à un niveau où le bien et le mal se mélangent. De telle sorte d'être sauvé du problème moral. De telle sorte d'arriver au paradis artificiel. Vous voyez à peu près de quel côté ça va. D'ailleurs, c'est pas par hasard que le Midrash nous dit, ben, ce fruit finalement, c'était quoi? Et avec beaucoup d'humour, le Midrash nous dit, eh ben, certains disent c'était du blé. Et avec du blé, qu'est-ce qu'on fait? Le whisky, je crois, non? Donc, d'autres disent c'était le fruit. Ça, c'est pour les Tunisiens, la bourre. Et puis, vous voyez, dans tous les cas, on nous a donné, ça aussi un autre temps, mais dans tous les cas, on nous a donné des sites, enfin, des aliments, qui ont été fondamentalement, la première expérience de Echomrim, donc, de émigrement, ou, je me souviens dans mes études d'avoir rencontré cela, je crois que c'est William James, qui était un psychologue anglo-saxon, comme vous savez, et qui a, c'est lui-même, intoxiqué, si je me souviens bien, c'était du peroxyde de manganèse. C'est un spécialiste, par là, il confirme. Non? Ça reste une substance. Pour essayer de savoir qu'est-ce que c'est que cet émigrement intellectuel des extases. Okay. Alors, il a raconté son voyage, comme on dit aujourd'hui, au peroxyde de manganèse. Et il a raconté que c'était un émerveillement d'un monde au-delà du bien et du mal. Et puis, mais quand il s'est réveillé, il a revu ses notes qu'il écrivait quand il était cité, je ne sais plus comment on dit, et il a vu que c'était des bêtises, que c'était vraiment des associations d'idées infantiles, et pas autre chose. Vous voyez à peu près le problème. Ça peut se retrouver dans les articles de William James. Okay.
Le recours aux toxiques est encore nécessaire. C'est le cas du Covid.
Oui.
Donc comment le voir? Parce qu'effectivement, il n'est pas possible, tant que le monde n'est pas acheté, que le mal n'est pas détruit, de distinguer, de ne pas faire entre le bien et le mal, sans l'aide une des partenaires de la société.
L'essayer pour un Covid, c'est une différente partie. Et moi, j'ai envie de dire des chassidines que j'arriverai à s'émigrer avec de l'eau. Oui. Et d'ailleurs, on dit la même racha sur un verre d'eau ou un verre de vodka. C'est la même racha, c'est inconnu avec la route. C'est mon fils déjà avec une racha, il m'a mis de la vodka. bon, alors, pour revenir à un problème, vous voyez, je ne sais pas si nous avons étudié ça, mais enfin, on est dans ce sujet, on est encore un peu sous l'influence de pourri, on se dirige vers.